L'administration de notre société. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous présenter cette conférence. Il m'attend donc ce soir cette charge un peu difficile de présenter Maître Rougac, tant il a de cordes à son arc. Depuis 1983, commissaire-priseur à Bordeaux, expert près la cour d'appel, Maître Rougac est très connu pour la magie de ses enchères. Il se qualifie lui-même le petit pousset face aux maisons anglo-saxonnes. Il a su imposer la prestigieuse vente annuelle de juin au château de Cheverny, d'abord, puis à présent au château d'Artigny. Son magnifique marteau, créé et réalisé par Bucci, ne retombe que sur des objets exceptionnels par leur qualité, comme un panneau de Lucas Cranach, si actuellement dans les collections de la reine d'Angleterre, des objets émouvants, comme le foulard que portait Louis XVI le jour de son exécution, ou des objets insolites, comme un tronçon de l'escalier de la tour Eiffel. Une de ses dernières ventes est celle du coffre de Mazarin, qui nous intéresse plus particulièrement ce soir. Il a su transmettre à son fils, Émeric, ici présent, ce goût pour le beau et cette envie d'être un passeur d'objets. Ils sont tous deux anciens de Sciences Po Paris, de la faculté d'Assas et d'histoire de l'art de la Sorbonne. Chevalier de l'Ordre national du mérite, chevalier des arts et lettres, président de la Société archéologique, scientifique et littéraire de Tours, Maître Rougac est un grand amateur et connaisseur de notre patrimoine et de notre histoire. Il est très attaché également aux amis de Rochambeau. Il y a 2 ans, nous avons eu le plaisir de visiter Vendôme sous sa houlette. Nos amis présents à l'époque s'en souviennent avec un grand bonheur. Vous nous faites ce soir un grand honneur en venant ici nous faire partager vos connaissances sur les lacs du grand siècle. Maître, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Et rouge comme les sièges de confusion pour ces éloges. Mon fils et moi-même, nous sommes ravis d'être des vôtres ce soir et de partager des passions. Les amis de Versailles écoutent, reçoivent de doctes, de conférences, de conservateurs très éclairés. Rassurez-vous, nous ne parlerons pas du marché de l'art comme commissaire-priseur, mais plutôt comme notre marteau qui est un bâton de sourcier. Et depuis plus de 30 ans, nous avons découvert, révélé un certain nombre d'objets, de meubles en lac. Le dernier et le plus important est le coffre de Mazarin. Et c'est à partir des lacs au XVIIe siècle, je pensais qu'il est intéressant de vous présenter ces objets fabuleux, qui ont toujours été très recherchés, l'industrie du luxe, avec un apport que nous, en Europe et en France, nous n'avons jamais pu découvrir, mettre au point. Vous savez que le secret de la porcelaine nous vient aussi de l'Orient, et qu'en France, il a fallu attendre sous Marie-Antoinette pour le percer, ce secret. Le lac, la laque, nous n'avons jamais su. Nous l'avons imité, et puis nous l'avons abandonné. Ils ont un savoir-faire inégalé, que ce soit aux Indes, surtout en Chine, et plus particulièrement au Japon. Et on va s'intéresser plutôt au lac du Japon, parce que c'est la laque de la laque, l'extrême complexité dans sa technique, et le meilleur rendu qui soit. Objet précieux, objet rare, qui remonte à plus de 3000 ans d'existence. Et les premiers objets en lac que l'on a découverts, ce sont des tombeaux. Le lac ne permettant pas le passage ni de la lumière, ni de l'eau, recouvrait les cercueils des plus grands, comme il recouvrait les arbres. Le lac, c'est pas simplement cette matière qui recouvre du bois, on semble un meuble, mais il peut être opposé aussi sur du métal, comme pour les armes. Donc je propose de vous rappeler rapidement ce qu'est cette technique, et puis passer à la parole à Émeric, qui va discourir à travers ces siècles et ces objets, et voir le caractère précieux. Le lac, c'est l'objet et le meuble. La laque, c'est la matière. La laque, elle est obtenue par une incision sur un arbre qu'on recueille dans un bol d'argile, qu'on laisse reposer et que l'on enduit d'une fine couche sur l'objet. Une fois qu'il est sec, on le ponce. Les plus beaux lacs reçoivent plusieurs couches et sont poncés multe fois. Le lac du XVIIe siècle au Japon peut avoir 18 couches. Et ces couches, ce n'est pas simplement pour la résistance, mais c'est aussi pour le décor. Et en fonction des secrets de fabrication qui sont perdus, quel que soit le prix que l'empereur du Japon veut mettre pour un cadeau diplomatique ou pour sa collection personnelle à Kyoto, pour renouveler l'art de la laque, ils ne savent plus. Les secrets des maîtres laqueurs ont disparu avec eux. Certes, il y a encore des laques, mais qui n'atteignent pas la préciosité, le raffinement, le savoir-faire, la technique des maîtres du XVIIe. Et c'est pour ça que tout blanc que nous sommes et tout pourfendeur, nous n'avons jamais réussi à crever le secret du lac. Donc une fois que ce lac est obtenu, eh bien, il n'est pas simplement réservé à des productions extraordinaires, il n'est pas simplement réservé à des productions de haut luxe, mais s'il n'y a pas de décor sur ce lac, si le lac reste dans sa consistance, dans sa couleur, qu'on peut teinter en noir, en rouge, en jaune, quelquefois en vert, et qu'on n'y met pas de décor, vous avez un bol bourgeois, guerrier, pouvait très bien avoir des ustensiles domestiques pour la vie de toujours en laque. Mais plus le raffinement gagnant, plus la technique excellente, bien plus sont les chefs-d'œuvre. Et ces chefs-d'œuvre-là, il y en a à Versailles. La dernière grande belle commode qui est rentrée en Versailles, qui était offerte il y a 2 ans, ce sont des panneaux de laque. Il ne faut pas voir ces meubles comme laqués sur place, en Chine ou au Japon. Mais les Japonais excellent dans l'art du mobilier mobile, fragile, de par des mouvements sismiques. Donc vous savez très bien que même l'empereur n'a pas un lit d'apparat, mais ce sont des nattes, et qu'il y a très peu de meubles, mais beaucoup de paravents pour séparer les espaces, pour l'intimité et en décor même. Et ce sont ces grands paravents de laque noire qui ont été débités au XVIIIe siècle pour être plaqués sur des formes des commodes Louis XV, des secrétaires Louis XVI. Et la plupart des laques ne sont pas conservés tels qu'ils ont été fabriqués. Certes, il reste des paravents, certes il reste des coffres, des étuis, des petites boîtes comme la reine Marie-Antoinette excellait à les collectionner, mais la plupart des beaux lacs ont été dépecés par nous, occidentaux, et replaqués sur des formes occidentales à partir du milieu du XVIIIe siècle. La belle commode qui est rentrée, c'est un bâti Louis XV, ce sont des bronzes dorés extraordinaires. Le fond est en lac, panneau, et les côtés ont été brunis en noir pour y donner un ensemble cohérent. C'est exactement comme pour la porcelaine. Une fois qu'on a découvert, comme on ne pouvait pas découvrir le secret de la porcelaine, on commandait des services par la Compagnie des Indes avec ses armes
Et c'était réalisé sur place, à grand prix. Il fallait attendre plus d'une génération. En général, le service de jeunes mariés était livré après le décès d'un des époux. Il fallait 20 ans, 25 ans pour avoir un service de 88 pièces. Donc, il était hors de question d'envoyer un bâti français, secrétaire, dodane, commode, et les envoyer pour les laquer en Chine ou au Japon et qu'ils nous reviennent. Je crois que les Orientaux auraient refusé. Ils auraient refusé toute domination culturelle. Et c'était très difficile à partir du XVIIe siècle, d'ailleurs, d'avoir des laques japonais. C'était un produit qui était très sensible et on était puni de la peine de mort, de décapitation. Et nous, Français, nous étions beaucoup moins bien placés, nous allons voir à partir des coffres, des coffres de Mazarin, que les Hollandais, qui, depuis le premier tiers du XVIIe siècle, ont commercé avec le Japon, ont importé des laques et l'ont diffusé dans toute l'Europe. Alors à Versailles, en laque, vous avez cet objet-là, qui est une chaise d'affaires, et vous voyez que les panneaux, là, sous fond aventurine, font rouge, le dessus et les côtés sont des laques japonaises, mais que le bâti, le montant, la boîte en elle-même, elle est très occidentale. Il en va de même pour cette paire de cabinets qui est posée sur un soubassement très régence, en bois sculpté et doré, et les cabinets eux-mêmes sont du Japon. Les seuls objets qui peuvent apparaître sur le marché, qui ne sont pas encore rentrés la plupart dans les musées, ce sont des boîtes comme celle-ci, comme celle qui est en haut, à la partie supérieure. Petits objets, grands objets, toujours grand raffinement, mais pour un commissaire-priseur, c'est toujours fascinant. Le lac, c'est le miroir de l'âme pour les Asiatiques. C'est ce qu'ils ont de plus précieux, plus que les armes, plus que la porcelaine, plus que leur peinture qui sont sur des rouleaux et qu'on ne déploie dans grandes occasions. C'est véritablement l'essence même de leur culture, le raffinement, la préciosité. Et après, c'est un rêve. C'est pour ça d'ailleurs que c'est en paravent. Et que ces paravents, ils nous racontent une histoire. Ils sont l'illustration d'un poème. Nous allons voir que le coffre est aussi l'illustration des romans populaires, d'histoire nationale, et ils se l'approprient comme une bande dessinée. Et ils le lisent. Et c'est extrêmement savant, cohérent, comme c'est extrêmement compliqué de le réaliser. C'est un tout, ça forme une civilisation, sans égal, sans être copié, très envié, et qui nous permet maintenant de contempler des meubles étrangers dans nos palais, dans les cours étrangères, dans toute l'Europe, et vous nous voyez, soit à Saint-Pétersbourg du mobilier français du XVIIIe, soit des objets en lac japonais. Point. Il n'y a pas de production anglaise, il n'y a pas de production allemande, il n'y a pas. Non. Il peut y avoir des cabinets avec certaines choses. Mais non. Japon et France, dans l'excellence au XVIIe siècle, et c'était le Japon qui tirait vers le haut, nous ont laissé des chefs-d'œuvre. Donc Aymeric va prolonger tout à fait naturellement cette présentation. Car si j'ai découvert ce coffre, c'est lui qui a fait tout le travail de reconnaissance, d'exploitation, de lecture, afin qu'un bar à papa, tel qu'on nous a appelé pour venir le découvrir, un commissaire-priseur, ça rentre chez tout le monde. Vous nous appelez, nous venons. Je suis appelé un soir, il n'y avait rien dans cette maison, vous allez prendre un chéri, infect depuis 10 ans, tant royaux, mais il était dans un coffre qu'on appelait le bar à papa. Et ce bar à papa, c'était le coffre à Mazarin. Donc c'est une histoire qu'il a fallu tirer sur le petit bout de la pelote de laine pour arriver jusque-là. Et ça, c'est ce qu'a fait le groupe. Et donc, c'est tout naturellement que cette troisième génération de commissaires-priseurs installés à Tours, maintenant, va vous conter l'histoire de ce coffre.
Merci. Le sujet du lac, des lacs au grand siècle, s'impose. Il s'impose parce que c'est au XVIIe siècle que l'art de la laque a été porté à sa perfection. Mon père m'a rappelé que 18 couches sont nécessaires pour avoir un décor d'une richesse extraordinaire. 18 fois de suite, on prend la sève de cet arbre, Rus vernifica, on l'applique, on attend qu'elle sèche, on ponce et on décore. Et à chaque fois qu'on ponce, imaginez-vous qu'on craint de trop poncer et de faire disparaître un mois, deux mois, trois mois de travail. On ne peut pas fabriquer rapidement un lac. Il faut attendre le temps de séchage, le temps du ponçage. C'est l'art de la lenteur. Et ces grands coffres, cabinets que vous voyez, c'est parfois un an, deux ans ou trois ans de travail. Lorsque nous avons découvert ce coffre de Mazarin, je vous ai mis ici quelques détails de gros plans, vous le verrez ensuite plus généralement, pour vous faire comprendre de la grande variété des techniques de lac. Vers 1630-1640 sont mis au point les techniques de maquiller, c'est-à-dire de décor à l'or sur fond noir. Et on a une infinité de techniques représentées sur ces panneaux. Vous avez ici des incrustations d'argent, une cascade avec une incrustation d'argent qui fait une dizaine de centimètres. Là, tous ces points que vous voyez, ce sont des clous d'argent. Vous pouvez avoir des dessins peints à l'or, ou au contraire, des feuilles d'or. Vous pouvez avoir des décors or sur fond noir, ou bien or sur fond or. C'est une variété, une richesse de techniques, comme vous le disait mon père, qui n'a jamais été égalée, et à propos desquelles, lorsque nous avons demandé à l'atelier Brugier, qui s'était occupé de nettoyer et de restaurer les lacs de Marie-Antoinette, vous savez qu'elle était gardée à la Révolution française dans un coffre ressorti, les laqueurs de l'atelier Brugier me disaient « Vous voyez juste cette partie de la cascade, je crois que je serai capable de la réaliser dans 50 ans, à condition d'y consacrer toutes mes journées pendant 50 ans. » Ça nous donne une idée de l'humilité que l'on doit avoir face à la laque et face au lac. Alors naturellement, nous vous avons réservé les plus beaux spécimens pour cette présentation, que ce soit la chaise d'affaires de Richelieu ou la boîte Van Diemen, Versailles et le Victoria and Albert Museum. Ces lacs, si l'on vient de comprendre leur technique, il faut comprendre le contexte dans lequel elles arrivent au grand siècle en Europe. C'est un pari complètement fou. C'est un pari complètement fou que de faire le tour du monde pour en rapporter les insignes joyaux. Ici, nous avons l'intérieur d'un magasin oriental vers 1880 où l'on retrouve des lacs, des porcelaines, des peintures, des soieries, dans un intérieur turc et de turquerie. Les premiers à rapporter des lacs en France et en Europe, ce sont les Portugais. Ce sont les Portugais et la plus ancienne mention d'un objet en lac date de 1560, offert au roi de France, une petite boîte de lac. Une petite boîte de lac, et il y a deux grands centres de production. Il y a la Chine, et puis il y a le Japon. Mais au XVIIe siècle, la Chine n'est pas aussi réputée qu'au Japon. Vous connaissez ce paravent qui est conservé à Versailles. Les lacs de Chine sont moins fins. Les lacs de Chine sont davantage en relief, creusés, Et les nappes de Chine passent par ce port des Indes qui s'appelle Coromandel. Et on appelle ces grands paravents des lacs de Coromandel. Il ne s'agit pourtant pas de lacs fabriqués à Coromandel en Inde, mais fabriqués en Chine. Ce sont des lacs qui sont plaisants, qui nous racontent des histoires, mais si on agrandissait pour rentrer dans le détail, on verrait que de détails, il y en a peu comparé aux lacs du Japon. Les lacs de Chine, que l'on voit autrement régulièrement, de temps en temps, ce sont ces boîtes rouges du XVIIe et du XVIIIe siècle, où l'on retrouve, à l'opposé, un sens extrêmement précieux, minutieux, du détail. Ici, ce sont des dragons à 5 griffes. Vous savez que le dragon à 5 griffes est celui qui est réservé à la dignité impériale. Ce sont des lacs qui ont été rapportés en Europe après les différentes guerres de l'opium que nous y avons menées au XVIIIe siècle, XIXe siècle, et le sac du Palais d'été. Peut-être vous souvenez-vous de l'exposition « La cité interdite au Louvre ». Il y avait un magnifique trône en lac, toute la salle du trône qui était présentée. Là, nous avons des boîtes d'excellence, mais elles ne sont pas pour l'exportation. Les lacs que l'on reçoit de Chine au XVIIe siècle sont d'une qualité inférieure aux lacs japonais. Les premiers à commercer avec le Japon sont les Portugais. Vous savez que l'Espagne et le Portugal se partagent le Nouveau Monde, Brésil, Amérique latine, et les Portugais poursuivent cette quête de faire le tour du monde. Et les lacs qui arrivent massivement en Europe, à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle, sont des lacs importés par des Portugais. On les appelle en français des lacs nambans. Il peut s'agir de coffres bombés ou d'écritoires fabriqués au Japon pour les Portugais qui ont l'habitude de voyager. On les appelle nambans, et ce qui est très amusant, c'est que les Japonais appellent ces lacs barbares du Sud. C'est le nom qu'ils donnent aux Portugais. Ces lacs sont les premiers exemples de la mondialisation de l'industrie du luxe. Pourquoi ? Vous comprenez que nous avons des Portugais et des Japonais. Mais les techniques d'incrustation de nacre proviennent du Gujarat, en Inde. Les peaux de poissons et de raies viennent de la mer de Chine. Et ces meubles en lac, fabriqués au Japon, sont exportés dans le monde entier. On les retrouve chez les conquistadors au Mexique. Ils sont offerts en présent à l'empereur de Chine par les Portugais qui veulent commercer avec eux, ou bien encore à tel ou tel sultan des Indes avant d'arriver en Europe. Les Portugais avaient un fâcheux défaut aux yeux des Japonais, c'est que dans les bateaux, il y avait quelques jésuites. Vous savez que François-Xavier a eu de cesse, François-Xavier, de convertir le Japon. Et les jésuites, le japonais, après tout, pourquoi pas, nouvelle religion, nous pourrions les poser. Mais les jésuites ont été chassés de France pour les mêmes raisons qu'ils avaient été chassés du Japon. C'est qu'à partir du moment où ils ont converti les cœurs, ils entendent au Japon gouverner et donner des principes de bon gouvernement. Les Japonais chassent violemment les jésuites, les renvoyant à la mer et accordant le monopole du commerce avec leur île aux Hollandais. Les Hollandais arrivent au Japon au début du XVIIe siècle, en 1602, et rapidement, ils montrent et prouvent aux Japonais qu'ils sont capables de faire des affaires sans s'occuper de politique. Et ça, ça convient parfaitement aux Japonais. Et le nouveau style de lac, là nous avons les lacs nambans, portugais si vous voulez, et le nouveau style de lac, qu'on retrouve en bas à droite de cette image, va être un lac que nous appellerons maquillé, qui sont ces techniques de lac à l'or sur des fonds rouges ou sur des fonds noirs, et que les Japonais, eux, appelleront les lacs des cheveux roux. Comprenez pourquoi ? Les lacs des barbares du Sud, les Portugais, les lacs des cheveux roux pour les Hollandais. Le plus ancien exemple de ces lacs de maquillés, c'est un trésor national japonais, c'est le trousseau de mariage d'une princesse Chiyome du shogun Tokugawa et conservé au musée de Tokugawa. Nous sommes dans les années 1630-1640. Le Japon vit une profonde révolution politique qui s'organise autour des shoguns. Et les shoguns qui prennent le pouvoir, ce sont des hommes de guerre, viennent avec un nouveau style aussi artistique, réglementant notamment la production de ces lacs. Et ces lacs arrivent jusqu'en Europe par le biais des compagnies des Indes. La plus célèbre de toutes les compagnies des Indes, c'est naturellement la compagnie des Indes néerlandaises, que les Hollandais appellent VOC. La compagnie des Indes néerlandaises est fondée au début du XVIIe siècle. Ici, nous avons le retour de la première mission, trois bateaux qui reviennent, qui est considéré comme un des grands tableaux historiques hollandais, premier tour du monde pour les Hollandais. Et rapidement, cette compagnie, qui est fondée par les différentes villes de Hollande, avec une capitalisation financière considérable, établit des comptoirs un peu partout. Ici, nous avons le comptoir de Batavia, et là, le seul point de contact avec le Japon, qui est l'île d'Hirado, puis de Deshima, où est établi le comptoir de la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes néerlandaise a une puissance qui est supérieure à celle de beaucoup de royaumes européens. Des milliers de bateaux, une armée de 12 000 hommes, des matelots en permanence, 1,6 milliard de florins échangés au cours de sa vie. C'est la première construction capitalistique de l'histoire récente et qui va donner des idées à tout le monde. À tout le monde, en particulier à la France. Et Colbert, héritier de Mazarin, va débaucher l'un des plus brillants responsables de la Compagnie des Indes, un Français, mais qui était huguenot, pour pouvoir créer, au début des années 1664, la Compagnie française des Indes orientales. Et tous ces lacs que nous avons sont produits par ces compagnies pour pouvoir ensuite montrer la puissance de la compagnie, ou bien encore réaliser de bonnes affaires. Et lorsque les Japonais prennent le contrôle du commerce avec le Japon, ce Français qui sera débauché par Colbert s'appelle François Caron et décide d'épater le public européen. Et il commande quelque chose qu'il n'aurait jamais dû commander. Il commande les plus beaux lacs jamais créés. Pourquoi n'aurait-il jamais dû le commander ? Parce que, suivant la caste sociale dans laquelle vous étiez, vous ne pouviez commander que tel ou tel type d'ouvrage. Et lui demande aux ateliers de laqueur qui travaillent à Edo, la nouvelle capitale, qui travaillent directement pour les shoguns, de créer les meubles les plus incroyables que l'on ait jamais vus. Et lorsque mon père a été appelé dans cette demeure du Val-de-Loire. Tu m'as raconté avoir été appelé pour une pendule hollandaise qui n'était pas authentique, qui explique à cette cliente que malheureusement la pendule est une aimable copie et que tu t'exclames devant le bar à papa. Mais c'est un meuble spectaculaire. Vous parlez du bar ? Non, le coffre ! Effectivement, nous avons des frissons. Nous avons des frissons car sur plus de 9 mètres carrés, les laqueurs japonais ont montré ce qu'ils savaient faire de mieux. C'est un coffre, si vous voulez, qui a à peu près les proportions de cette table. Un peu plus d'1,50 m de large, 78 cm de haut, la même profondeur, qui est laqué sur toutes ses faces et qui nous raconte des histoires merveilleuses du Japon. Vous voyez qu'avec les lacs Namban, nous avions des incrustations géométriques. Là, ici, au contraire, nous avons une histoire qui est racontée. Vous identifierez facilement les lacs du Japon, certes à ses décors à l'or sur fond noir, mais aussi que sur toute lac du Japon, vous avez trois éléments qui sont toujours réunis. La nature, le plus souvent symbolisée par des arbres ou une montagne, des constructions humaines, pagodes, ponts, et le troisième élément, c'est l'élément aquatique. On le retrouve sur tous les lacs du Japon. Nous sommes au XVIIe siècle, il y a eu des guerres avec la Corée. Ces symboles bordures que vous voyez là, ce sont des symboles coréens, des bones, en forme de cercle. Si vous faites attention, toutes les sociétés japonaises et coréennes aujourd'hui ont encore un logo en forme de cercle, que ce soit des fabricants de voitures ou d'informatique. C'est hérité des guerres avec la Corée à la fin du XVIe siècle. Et puis, industrie un peu spectaculaire, nous avons ici des phénix, des dragons, d'inspiration plutôt chinoise. On essaye de faire les pattes la plus fantastique pour montrer la suprématie des lacs japonais. Et sur ces lacs, ces plus beaux lacs, que les Anglais disent du fine group, des jolis groupes, il y a à peine une dizaine de pièces sur Terre, le point commun est que l'on raconte sur les parties principales l'histoire de Genji. Genji, c'est un prince à l'incommensurable beauté. Il ne règne pas, mais sa vie a été racontée par une auteure japonaise du XIe siècle. C'est le premier roman de la littérature mondiale, et c'est une femme qui l'écrit. Et ces lacs de Genji racontent différents chapitres. Ici, nous sommes au chapitre 28, après la pluie. Une tempête s'est abattue. Nous sommes à l'intérieur du palais impérial. Si vous allez visiter Kyoto, vous verrez des pavillons comme celui-ci. La pluie s'est abattue, l'eau est troublée, et les femmes, après la pluie, vont ramasser les fleurs coupées. Les enfants vont pêcher des poissons ou attraper dans des boîtes des petits criquets. Voilà les enfants ici, attrapant dans des boîtes des criquets, une sauterelle au lasso, avec ses décors de clous d'argent, d'or, peints, incisés par lacs successives. Admirez le détail de la clé. Ce sont des tigres qui gardent précieusement et un dragon, la serrure par laquelle on pourra l'ouvrir. Et le cardinal Mazarin, qui en deviendra propriétaire, n'y rangeait-il pas lui-même des diamants qu'il offrira ensuite à la régence, Anne d'Autriche, qui sont aujourd'hui sur la couronne des rois de France? Il valait mieux que ces diamants soient bien gardés. Autre panneau, le panneau central, qui est sur le dessus du couvercle, il s'agit du lac d'Ishima, la même où a été écrit le dit du Genji. Scène de lac, montagne, pagode, et des personnages s'apprêtent à partir en barque sur le lac. Phénix, bonne, nous avons toujours cette histoire qui est racontée, qui est l'histoire de Genji. Le lac d'Ishima, nous avons les merveilles du monde connues dans le monde grec. Le lac d'Ishima, c'est l'une des merveilles du monde asiatique. Lorsque nous ouvrons ce coffre, nous y découvrons, sur un fond de lac que l'on dit aventurine. Peut-être avez-vous déjà été confronté à ce terme. C'est une laque pailletée, rouge, les Japonais l'appellent Nashiji. Et ce qui était incroyable dans ce coffre, c'est que tout le coffre était laqué. 9 mètres carrés de lac. On a eu beaucoup de mal à retirer les bocaux de cerises à l'eau de vie, parce que c'était collé au fond de la laque.
Quand on a raconté cette histoire, personne ne nous croyait. Alors surtout, on a demandé aux ateliers Brugier, ne nettoyez pas l'intérieur du coffre. Sinon, personne ne croira que c'était un bar. On avait laissé même un agitateur pour raconter la véracité de cette histoire. Raconte l'histoire de deux frères japonais, le dit des frères Soga, qui vengent au cours d'une partie de chasse en présence de l'empereur, au pied du mont Fuji, leur père qui avait été lâchement assassiné. Et sur les autres pièces lacres que l'on retrouve dans les collections de Londres ou également ici à Versailles, on retrouve aussi le dit du frère Soga. Regardez ces scènes de chasse. Lui est monté sur un sanglier. Lui tire à l'arc. Le cerf est saisi dans l'instant. Ici, c'est une chasse à la lance. On arrive à pied pour pouvoir ramener le gibier qu'un petit singe ramène sous l'œil de l'empereur. Lorsque nous avons découvert ce lac, nous avons tous les deux été saisis d'effroi. Quelle chance de pouvoir découvrir la plus belle pièce en lac qui existe sur Terre. Elle était recherchée depuis très longtemps. Nous savions qu'une plus petite coffre était conservée au Victoria and Albert Museum. Lorsque les conservateurs français n'ont pas souhaité classer ce coffre trésor national, nous ont donné la sortie du territoire, l'autorisation, nous avons communiqué sur le fait que nous avions retrouvé ce coffre. Tout de suite, les conservateurs du monde entier sont venus l'étudier. Et la conservatrice du Victoria and Albert Museum nous dit « Je viens voir si mine is world number one ou si c'est le vôtre qui est le numéro un. » Alors je dis « Qu'en pensez-vous, cher Julien ?» Elle me dit « Bon, vous avez la taille. Celui du Victoria and Albert Museum ne fait que cette taille-ci. Mais le mien est beaucoup plus fort. » Je dis « Qu'est-ce qui vous permet de le dire ?» Eh bien, lorsque nous l'avons restauré avec le Getty Museum, nous nous sommes rendus compte que certains personnages avaient 6 doigts de pied et qu'on pouvait voir leurs ongles. Je suis désolé, il y a des dizaines de personnages, mais je ne me suis pas amusé à compter les doigts de pied. Nous nous sommes approchés avec une loupe, et même avec une loupe, impossible de compter les doigts de pied. Lorsque nous avons fait les batteries de photos pour le catalogue, j'étais un petit peu piqué dans mon orgueil. Quand nous avons demandé à notre photographe de faire des gros plans sur les doigts de pied des personnages. Imaginez-vous que ce petit singe fait à peine 2 cm de haut. Et nous avons compté également 6 doigts de pied pour le petit singe. Et avec des zooms macro-objectifs, nous avons pu observer les ongles. Bas le centre, nous avions la taille, le nôtre était bien le world top number one. Cela nous enseigne aussi que c'est l'acqueur créé pour l'invisible. Mon père vous disait que le lac est le miroir de l'âme, mais lorsqu'un lacqueur va s'amuser, je ne sais pas si c'est un jeu pour lui, mais c'est une mission qui relève de la mission sacrée, à rentrer dans les détails des ongles que personne ne verra à l'œil nu, et que nous-mêmes, avec une loupe grossissante, nous avons l'habitude d'observer. Nous ne la voyons pas 2 siècles après, et qu'il faut des moyens technologiques du 21e siècle pour s'en apercevoir, c'est que vraiment, ces lacs sont le miroir de notre âme et que ces lacs travaillent pour l'invisible. Ça, c'était le dos du lac et c'était mon favori. Des oiseaux sur une branche de magnolia. Et là, on est loin de les pattes, on est loin de l'esbrouf. On est au plein cœur du Japon. Asymétrie, sens du vide, de la composition, la beauté noire à l'état pur avec ces oiseaux qui volettent auprès des branches de magnolia. Là, ce sont les lacqueurs qui se sont fait plaisir et probablement la plus jeune génération Kohami qui a travaillé sur ce panneau-là est une qualité un petit peu moins inférieure, moins des pattes, moins des esbroufs, mais tellement saisissante, tellement poétique, avec ce sens du vide. Nous découvrons finalement qu'après 1860, lorsque le Japon s'ouvrira à nouveau. Et je vous dis lorsque le Japon s'ouvrira à nouveau, car lorsque ce coffre est exporté en 1643 sur le bateau qui s'appelle l'Orange Blue, Les registres de la Compagnie des Indes néerlandaises sont extrêmement précis. C'était un 15 octobre. Il y avait 4 coffres d'une incroyable valeur. On a épluché tous les registres. Ce sont les coffres les plus chers jamais exportés. Le Japon prendra un édit chassant les Hollandais sur une île pour limiter leur contact avec les Japonais, interdisant le commerce des grands lacs, interdisant la représentation d'hommes en armes, de villes, de citadelles sur les lacs, sous peine de mort. Et de 1641 jusqu'en 1860, à cause de l'exportation de ce coffre, le Japon s'est fermé au reste du monde extérieur. Alors quel est l'avenir de ces lacs lorsqu'ils arrivent en Europe ? Ces lacs rejoignent des collections. Ici, peut-être connaissez-vous la Grande Galerie, la Bibliothèque Nationale, dans l'ancien palais Mazarin. Peut-être connaissez-vous les antiques qui font l'insigne honneur des collections du Louvre, des bustes, et là, des coffres en lac posés à même le sol. Le cardinal Jules Mazarin. Après que le coffre arrive en 1643 en Hollande, apprend qu'en 1651, 8 ans plus tard, les Hollandais n'ont toujours pas réussi à vendre ces coffres, beaucoup trop chers, et qu'ils sont prêts à les vendre au meilleur prix à condition qu'on paye comptant. Mazarin décide en 1658 d'avoir une collection de lacs. Lorsque l'inventaire de ses biens est dressé en 1653, il n'y a que 8 lacs dans le palais Mazarin. À son décès, en 1662, 10 ans plus tard, il y en a plus de 200. Et l'essentiel de ces lacs ont été achetés par son marchand, Lescot, avec le support de l'ambassadeur de France, de Toux, en Hollande. J'étais aux archives diplomatiques de la Courneuve, où c'est amusant comme tout, de voir Mazarin écrire à Toux et Toux lui répondre pour lui expliquer que malheureusement il y a un brigand d'anglais qui fait monter les enchères. Les Anglais déjà, les Anglais toujours. Et Mazarin réunit cette collection de lacs fantastiques. L'inventaire des biens de Mazarin, vous savez, a été dressé à la demande expresse du roi. Lorsque Mazarin meurt, son premier idée est de donner tous ses biens au roi. Il dit « Sire, je tiens tous ses biens par votre bienveillance. Ils doivent donc tous retourner à la couronne de la France. » Il y a un battement d'incertitude à Paris. Si on accepte les biens de Mazarin, ce sont des biens qu'on sait qui ont été mal acquis. Hein, comment un petit Italien intrigant devient l'homme le plus riche de France. C'est la succession la plus importante ouverte sous l'Ancien Régime. 34 millions de livres. Richelieu, c'est 17 millions de livres. Et Condé, c'est 14 millions de livres. Les trois plus importantes successions ouvertes sous l'Ancien Régime. Eh bien, ça va rejaillir sur les collections royales. Louis XIV refuse, accepte les diamants pour sa mère, sort de ce coffre et de ses frères, et alors que Mazarin avait demandé à ce qu'aucun inventaire de ses biens ne soit dressé, ça aurait été montrer l'étendue de sa richesse, c'était beaucoup, Louis XIV demande à ce qu'un inventaire soit fait. Vous vous souvenez de ce mot de Mazarin qui, avant de partir pour Vincennes, dicte son testament, ça s'étale sur plusieurs jours, il traverse le palais Mazarin et dit « Mourir, oui, mais quitter tout cela, et comment ? Comment ?» L'inventaire est fait, les dimensions sont très précises et notre coffre porte le numéro 829. À travers Paris, on s'éprend de ces lacs du Japon. On s'éprend de ces lacs du Japon et les hôtels particuliers seront meublés de lacs. En 1686, 1er septembre, robe à réception des ambassadeurs du roi du Serbe. Bien que Louis XIV ait battu la Hollande, il souhaite continuer à l'affaiblir et en Asie, entre la Chine et l'Inde, pour lui, l'empire important, c'est l'empire de Siam. Des ambassades sont échangées et lorsqu'en 1686, les ambassadeurs du Siam viennent à Versailles, on raconte comme ils portent dans une boîte sur une lame d'or la lettre destiné par le roi à Louis XIV. Il traverse toute la galerie de Versailles, s'agenouille devant le roi et reculeront ensuite toute la galerie à reculons pour ne pas tourner le dos à Louis XIV. Ça marque les esprits et des cadeaux sont très largement dispensés par dizaines, des coffres, des paravents, des boîtes. Après avoir rencontré le roi, le soir même, il rencontre le dauphin. Le dauphin qui se voit offrir par les ambassadeurs du Siam cette paire de coffres aujourd'hui exposée au château du Louvre. Et l'on va retrouver parmi les principaux collectionneurs de lacs au XVIIe siècle ceux qui ont été proches de l'ambassade du Siam. Colbert de Croissy, qui est secrétaire d'État aux affaires étrangères. Le dauphin. L'abbé de Choisy, qui était l'ambassadeur au Siam. Et puis le nôtre, bien sûr, qui est l'un des grands collectionneurs de lacs. J'ai épluché un grand nombre d'inventaires du XVIIe siècle pour pouvoir essayer de comprendre comment sont placés les lacs. Soit on aime, soit on n'aime pas. Dans certains intérieurs, il y a du mobilier en noyer. Parfois, le lac est une passion féminine. Dans la chambre de madame, on retrouve des meubles en lac, mais dans celle de son mari, c'est du mobilier en noyer. Séguier, le chancelier Séguier, est un grand collectionneur de lacs. Ses enfants, Madeleine Fabry, sera une grande collectionneuse de lacs. Colbert de Croissy a des meubles en lac posés sur des piétements en bois doré dans son salon, dans sa chambre et encore au-delà. Mais l'endroit le plus extraordinaire, c'est chez les Daumont. Dans l'hôtel Daumont, c'est la plus belle collection de lacs parisienne. Au début, vers 1640, premiers inventaires dépouillés, pas une seule pièce de lac. Et puis, quatre coffres en lac dans une galerie. Et en 1709, dernier inventaire, des lacs à foison, des pièces entières. Et il y a eu un véritable goût pour le japonisme, avec des achats marqués tout au long du XVIIe siècle par ces familles françaises pour qui cet Orient exotique sur lesquels on pouvait poser des vases de porcelaine, eh bien, était le summum du luxe, mais aussi de l'intériorité et du reflet de l'âme. Vous avez reconnu ici, autre objet laqué, ces armures que l'on retrouve au musée de l'armée. Malheureusement, je vous ai dit que le Japon se ferme. Le Japon se ferme. Et donc, on va créer en France un certain nombre de lacs en les imitant. Trianon de porcelaine, construite pour la Montespan, et dont on voit ici les reconstitutions, est un meublé de porcelaine, certes, mais aussi de mobilier en lac. Mais pour une folie dont l'existence durera 15 ou 20 ans, on ne peut pas avoir que du mobilier en lac, trop coûteux, et l'on demande à des ébénistes de réaliser des meubles en lac. Parmi les ébénistes qui livrent la couronne, naturellement, Pierre Gueule. Et Pierre Gueule va livrer deux meubles qu'il laque lui-même, on les appelle vernisseurs, un grand meuble semblable à la tour de Nankin, une espèce de pyramide à étages, qui sera vendu par les ventes du garde-meuble en 1741 et détruit. Et puis un mausolée pour les dépouilles de Childéric, premier roi du nom et roi de France. Où on se rend compte que ces lacs ne sont plus seulement des attributs mobiliers de décoration, mais deviennent également part de l'histoire de France. Autre objet en lac qui est passé entre nos mains, c'est une laque française spectaculaire, un cabinet du prince et de l'oiseau. Il repose sur un piétement en bois doré. On voit apparaître des piétements en bois doré pour les meubles vernis à la façon de la Chine qu'après les années 1670. Là, on est tout à fait dans les années 1680, avec un décor extrêmement amusant tiré d'une vieille légende indienne où un roi s'éprend d'un oiseau. Il s'éprend d'un oiseau et ordonne pour lui les plus beaux concerts. Ici, les femmes jouent de la musique. On a préparé un nichoir pour que l'oiseau vienne se poser. Là, on donne une représentation de théâtre où la nuit et le jour se disputent pour le plus grand plaisir de l'oiseau. Ce cabinet est fabriqué à Paris. On montre ici des expéditions d'ambassadeurs dans des jardins étrangers, relations, des voyages par Kirchner, par exemple, en Chine, qui sont des best-sellers du XVIIe siècle. Et à l'intérieur, ce cabinet en laque française nous montre des scènes de la vie de cour française. Chasse, comme le dit les frères Seguin, réception impériale où le couple va à la rencontre de l'oiseau. Mais l'oiseau se lasse de tous ces bruits, de tous ces cris, on s'époumonne en se tapant la poitrine, et au bout de 3 jours d'un tel rythme, eh bien, l'oiseau s'en va. On le voit ici s'en aller, et le roi reste seul. Ces légendes ont ensuite été traduites par Golemin et ont inspiré naturellement Jean de La Fontaine. Regardez ici, vous les amis de Versailles, ces petits tiroirs intérieurs sur lesquels nous retrouvons des animaux spectaculaires. Tatou, oiseau et bien sûr un éléphant. Entre 1668 et 1681, le roi du Portugal envoie un éléphant à la cour de Versailles qui est accueilli dans la ménagerie. Il remercie ainsi son lointain cousin, fermé les yeux sur l'éviction qu'il a faite de son frère. Donc Pedro a chassé son frère qui était roi du Portugal, le faisant enfermer comme fou, lui a ravi sa femme qui était une princesse de Savoie. Louis XIV avait envoyé sa cousine, la princesse de Savoie, pour asseoir l'influence française au Portugal. Et après quelques jours, voilà qu'elle quitte son mari pour partir avec son frère, qu'elle fait enfermer son mari. Ça fait désordre. Alors le roi du Portugal envoie un éléphant au roi de France. Ce cabinet avait été retrouvé au Portugal. Avait-il été envoyé en remerciement du cadeau de l'éléphant et sur une traduction du mythe d'Orphée ? Nous n'avons pas retrouvé de traces, mais c'est extrêmement amusant et sympathique.
Nous allons passer très rapidement sur l'avenir de ces lacs afin de vous donner la parole. Commode laquée, avec ses panneaux, qu'ils soient montés au XVIIIe siècle comme pour la commode Louis XV, ou au XIXe siècle encore dans le goût du XVIIIe, où vous avez au centre des panneaux très fournis, or sous fond noir, ceci plus léger. Et pour la reine, par Weisweiler, ces panneaux de lac du Japon en ornementation légère. Le coffre de Mazarin, qui a été acheté par le Rijksmuseum d'Amsterdam, le coffre en haut à gauche du Victoria Albert Museum de Londres, et en bas à gauche, un autre coffre qui a été dépecé pour donner ce meuble très français, occidental, de conception. C'est peut-être pas très intéressant de vous donner l'histoire de ce coffre, à qui a-t-il appartenu après Mazarin, mais les recherches ont été faites par Emmerich sur la traçabilité. C'est très important pour nous de raconter une histoire réelle à partir de sources et voir quels étaient les propriétaires successifs de ce coffre jusqu'à nos jours. C'est une autre histoire, ça tient du roman policier. Ça tient de rebondissements avec les crises diplomatiques, avec la Révolution française, avec l'incendie de Londres en 1940, pour échoir jusqu'au Val de Loire. C'est l'histoire des objets depuis Mazarin. Mais on a trop de plaisir à la fuite en Angleterre. Il était par les plus grands collectionneurs et il a été vendu en même temps que celui du Victoria Albert Museum. Le Victoria Albert Museum a lancé des avis de recherche il y a 20 ans en disant « Le grand coffre, le plus beau coffre, il est perdu, il a dû brûler lors de l'incendie en 1940. Si vous avez des informations, nous sommes preneurs. » Et nous l'avons révélé à la surprise mondiale de toutes les institutions. Voilà, ce coffre a fait une enchère complètement phénoménale de 7 200 000 euros. La France les laissant partir, elle avait réuni, ça c'est une autre histoire, pour 2 millions d'euros, et après il y a eu une bataille entre l'étranger. Le Louvre n'a pas pu rentrer dans la danse parce qu'il n'avait pas sa place au Louvre, parce qu'il était oriental et que le Louvre ne présente que des productions essentiellement françaises. Alors si c'est ça, je crois qu'on peut vider le Louvre de l'Égypte, de la Grèce, et de beaucoup d'autres choses. C'est à la Marté, c'est pas important. La parole est à la salle, afin que vous puissiez tenter de répondre à vos questions. Alors, qui se lance pour la première question ?
Je vous remercie infiniment, c'était vraiment très 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 intéressant. Donc, j'ai deux questions qui ne sont pas liées du tout. Tout d'abord, par curiosité, avez-vous immédiatement identifié ce coffre quand vous l'avez vu en bas à bas ? Est-ce que ça vous a immédiatement semblé évident que c'était le coffre qui était recherché ?
Non, ça serait vous mentir que vous dire qu'une fois que j'ai vu ce chéri blanc, je savais que c'était le coffre de Mazarin. Non. Mais mes parents nous traînaient dans les maisons, dans les châteaux, et à la fin de chaque visite, nous avions le droit d'avoir une carte postale. Je me souviens, j'étais en culotte courte et au Victoria Albert Museum, j'avais choisi la carte d'un meuble noir et or. J'avais gardé ça sans savoir trop ce que c'était. Et lorsque ce coffre a rentré dans mon bureau, travail technologie moderne, j'ai fait une photo, j'ai envoyé la photo à Emeric, et puis sur Internet, c'est allé très vite. C'est allé très vite. Après, il fallait voir si notre pressentiment était couvert par son histoire, par les conservateurs, par les archives. Et ça, c'était le travail de commissaire priseur et à moi un peu commissaire de police. Il y a des enquêtes à faire. Il a vendu ce coffre, la plus belle enchère française sur toute sa génération, sans un expert. Nous avons consulté le cabinet Portier, trois générations, des gens extrêmement sérieux. Ils sont venus voir, ils n'y croyaient pas. Comme mes confrères n'y ont pas cru. Je croyais que c'était une production de Napoléon III. C'était trop beau, c'était trop fort, il était très sale, donc on ne voyait pas grand-chose. Mais si j'ai pas d'oreille, on sent, et puis il y a des yeux, donc après, ça sent mieux. Il ne faut pas passer à côté de certaines choses. Nous avons vendu d'autres meubles comme ça, que personne n'y croyait. Mais il parlait dans son raffinement, et puis après, il faut faire parler, puis l'écouter. Autre question ?
Je trouve extraordinaire les décorations en vernis martin qu'il y a au château de Versailles. Quel est le lien entre les lacs et le vernis martin ?
Le vernis martin, une très belle exposition il y a 2 ans passée au musée des arts décoratifs, c'est le 18e siècle. C'est une famille qui a poussé à l'excellence l'art de ce vernis à la façon du lac. À tel point, parfois, on est troublé en se demandant est-ce de la laque ou est-ce un vernis. Dès le XVIIe siècle, dès 1620, dans les annuaires, la curiosité parisienne, on retrouve des vernisseurs de la reine Marie. On retrouve des vernisseurs tout au long du XVIIe siècle et on cherche à imiter la laque. On cherche à imiter la laque et on y parvient relativement bien. Vous avez ici la laque du Japon, je vous ai montré tout à l'heure les laques de ce cabinet du prince et de l'oiseau. Pour les parties qui sont restées préservées à l'intérieur de la lumière, c'est extrêmement proche, extrêmement troublant. Et dès le XVIIe siècle, on excelle à Paris dans le vernis. Mais pas qu'à Paris, les Allemands sont fantastiquement forts. Il y a des vernisseurs et des laqueurs en Allemagne tout à fait prodigieux. Tout à fait prodigieux. On retrouve aussi des laqueurs en Hollande. Et puis le goût pour la laque disparaît. Je vous ai raconté que dans les ventes de 1741 du garde-meuble, eh bien, on retrouve ces coffres, ces paravents qui ne plaisent plus, qui sont découpés pour pouvoir ensuite orner une commode de Béverbé ou autre. Et à ce moment-là, on redécouvre la laque comme un objet monté. Et à ce moment-là, les dynasties de vernisseurs, Martin, réapparaissent. Donc la laque, c'est une imitation, le vernis, c'est une imitation de la laque. Martin, c'est quelques décennies au XVIIIe siècle,
Mais un siècle avant, sous Louis XIV, il y avait déjà du mobilier verni façon gâchis, de très longue porcelaine, mais aussi dans Versailles.
Il y a un contraste qu'il faut... Nous sommes habitués de noir, et depuis le 19e siècle, on doit être en noir, ça doit être sérieux. Mais imaginez, le 17e, c'était flamboyant de couleurs. Ce coffre noir et or était à côté d'un mobilier d'argent, avec des tapisseries rouges et or. Et les sièges en bois doré étaient recouverts d'un verre, vous diriez, criard. La polychromie au XVIIe siècle, elle était sans comparaison, encore mieux que les productions du couturier Lacroix, aussi baroque, aussi italianisante en d'autres termes. Et les meubles japonais de noir et or donnaient une certaine solennité, un certain contraste avec le reste. Et c'est pour ça aussi qu'elles étaient appréciées. On ne savait pas le faire, c'était un grand raffinement, c'était un luxe incomparable. Seuls les grands pouvaient prétendre en avoir, et à côté de tout ça, ça devait être flamboyant, flamboyant. Et c'est un feu d'artifice des intérieurs de Versailles, des intérieurs du Louvre au XVIIe siècle, et le noir et or du Japon n'était pas le dernier. Un meuble qui combine de l'or, de l'argent, de la nacre, et des clous d'argent, et des lingots d'or, et des lingots d'argent. Le trône de Louis XIV était en argent, massif, hein, comme les caisses à ranger, la balustrade, tout le mobilier, tout a fondu pour payer les guerres. Eh bien, les coffres ont été débossés pour autre chose. Donc c'est aussi très rare. Du mobilier d'argent à Versailles, il n'y a rien. Il y a trois pièces qui sont conservées en Allemagne, point barre. Mais il nous reste de cette époque-là des sièges, certes, des éléments décoratifs ornementaux, mais il nous reste après les coffres. Sachez que dans tout l'Orient, dans le monde entier, au Japon, il n'y a pas de coffre comparable. Comme Ulrich vous l'a rappelé, quand ils ont vu que c'était une hémorragie, rentrée de devises en même temps, ils ont stoppé et interdit l'exportation. Ce qui fait que les plus beaux lacs sont à Versailles pour les petites boîtes, le goût de la reine, et puis au Rijksmuseum, et c'est tout à fait naturel que ce soit le Rijksmuseum d'Amsterdam qui a acquis ce meuble. C'est eux qui l'ont importé. Et nous l'avons acheté à une vente aux enchères au Amsterdam. Il est revenu. Certes, nous aurions préféré français qui reste en France. Je crois que vos impôts sont déjà suffisamment croustillants. Autre question.
J'ai le souvenir de la salle des lacs de Château-Schoenbrunn. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce qu'il y a quelques lacs qui sont présents.
Il y a un mot de Schoenbrunn.
Les principaux cabinets de lacs en Europe, c'est Peterhof, oui, côté de Saint-Pétersbourg, Schoenbrunn, oui, et puis dans la banlieue de Berlin aussi, Charlottenburg dans une moindre mesure. Hein. Mais nous sommes au 18e.
Oui.
Nous sommes au 18e. Ce sont des lacs qui sont aussi intéressants, mais qui ne sont pas aussi flamboyants, aussi fous. Et c'est l'accumulation. Le grand avantage, c'est que ce sont des lacs qui sont restés conservés dans leur environnement sans être dispersés. Ça, c'est une autre question.
C'est chinois avec le passage à Coromandel.
Exactement. Ce sont des lacs. Au Japon, on a continué d'exporter des petites pièces. Par exemple, vous avez tous ces petits médaillons des années 1780-85 qui représentent tous les papes, rois d'Europe depuis l'époque médiévale, qui sont copiés à partir d'ouvrages, de références, et que les Japonais vont exporter. Ce sont des petites pièces. Les pièces plus importantes, ce sont des pièces qui viennent de Chine et qui sont d'une qualité inférieure aux pièces japonaises. Mais qui n'en parlent pas moins. De très belle qualité, d'un ensemble spectaculaire.
Il y a plus de lacs de Chine qu'il y a de lacs de Japon. Ça, c'est certain. Mais entre les deux, je ne dirais pas que vous avez une Rolls, c'est que vous avez une deux chevaux, parce que ça vous véhicule. N'est-ce pas? Ça a toujours quatre roues et un moteur. Mais c'est pas le même plaisir et c'est pas le même raffinement.
expliquer la disparition de la technique. Alors, justement, parce que, bon, je veux bien pour l'exportation, mais dans le Japon, il devait bien y avoir des artisans présents qui devaient continuer à en faire pour la cour ou quoi. Autre question, on va peut-être les rassembler.
Vous avez parlé du dit de Kenji qui a illustré certains panneaux. Je crois qu'il y a eu une édition de Diane de Sévier sur le dit de Kenji il y a quelques années, n'est-ce pas ? Je ne me trompe pas, hein, c'est ça. Bon, c'est bien.
C'est amusant. Ici, je vous disais que c'est probablement des plus jeunes qui ont travaillé sur ce panneau-là, très japonais, mais de réalisation peut-être un petit peu moins fine. Comme toute chose, vous voyez, on a une qualité de détail qui est moins importante. Comme toute chose, c'est une question de transmission, surtout dans ces ateliers-là. En France, nous avons le système des corporations pour pouvoir accéder à la maîtrise. Commissaire-priseur, on doit faire un stage 2 ans chez un autre commissaire-priseur avant de devenir commissaire-priseur soi-même. Si ce n'est que je pense qu'il est peut-être plus facile de devenir commissaire-priseur que d'accéder au niveau de maîtrise de CELAC. Naître avec, travailler, et puis après on est doué, on n'est pas doué, mais essentiellement c'est du travail, et encore du travail, et de la patience. Et au fil des générations, le goût change. De la même manière que on est passé des lacs mambans aux techniques du maquillé, noir sur fond or, l'évolution du goût va changer au Japon, et puis n'oubliez pas que le Japon s'est fermé. Et quand une société se ferme, elle se sclérose, c'est beaucoup moins évident de continuer à transmettre. Il y a toujours des laqueurs. Il y a toujours des laqueurs en France. Des laqueurs qui ont appris leur technique, on pense par exemple à Dunan qui avait appris de technique auprès de Wailing Gray, qui avait appris de technique auprès de vieux maîtres japonais. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, personne ne serait capable de vous faire une telle prouesse en lac. Et le gouvernement japonais, on a eu une grande frustration lorsqu'on a présenté Slack, c'est que pas un seul conservateur français ne s'est déplacé pour le voir. Pas un seul. Pour signer le certificat de sortie du territoire sans demander à le voir. C'est une frustration. Conservateur honoraire, je viens de la Cambre et venu le voir. Alors que les Allemands, il y a le musée de la Lac qui est fantastique à Münster, les Anglais, Victorian Albert Museum, Singapour nous a envoyé son conservateur en chef, les Hollandais sont venus à plusieurs reprises, ils ont fini par acheter ce coffre, et les Japonais se sont dit, on n'a malheureusement pas les moyens, c'était la crise financière au Japon, d'acheter ce coffre, on envoie pendant 10 jours en Europe une de nos conservatrices pour l'étudier, faire des batteries de photos, parce que peut-être qu'on n'aura plus jamais l'occasion de l'approcher d'aussi près. Et elle-même nous a dit, on a perdu cette technique. Les choses se perdent, ça reviendra peut-être un jour. À vous de relancer la mode.
Autre question ?
Ce qui a été dit au niveau des 6 orteils m'a fait me souvenir que j'ai entendu dans une émission médicale un jour que lorsqu'il y avait 6 orteils, c'était le signe d'une maladie. Mais je n'ai pas retenu quelle était la maladie en question. Donc je ne sais pas. Peut-être quelqu'un dans la salle le sait,
c'est
quelque chose d'étonnant.
Les 6 orteils correspondent à une maladie identifiée. Les 6 orteils du singe correspondent-ils à une maladie identifiée ?
Je ne l'ai entendu.
On lance l'appel, pourquoi pas ?
Je ne l'ai entendu que pour les humains.
Je ne sais pas. Cerbère avait 2 têtes, mais c'était mythologique. Est-ce que un coffre qui représente l'empereur et le mot Fuji, hein, vous voyez, est supérieur à tout là. La spiritualité, le shintoïsme dans ce coffre aussi, c'est un meuble religieux, bien entendu. Hein. Non seulement le Genji, qui est équivalent de notre, comme le mec l'a dit, le premier roman de Flitzer, mais c'est un peu le roman de Rousseau, hein, Roland, hein, le roman de geste, nous le trouvons là. Alors pourquoi un orteil est plus une maladie ? Non, je ne pense pas que ça doit être un signe distinctif. Quelque chose. Mais vous retrouverez ce petit singe. Vous pourrez prendre en sortant. Vous mettrez ce que vous voudrez, c'est au profit des amis de Versailles. Il y a catalogue, hein, et puis il y a l'agrandissement du petit singe que vous voyez là, et puis derrière. Ça permet de regarder de très près, et vous verrez donc la laque en poudre, la laque en or, avec les poils de barbe et cils de ces personnages, et les fameux 6 doigts de pied.
Bien, je crois que pour vous remercier et féliciter M. Rouillac de cette excellente vraiment soirée, très enrichissante. Merci beaucoup d'être venu. Deux petits mots, nos amis de Versailles, pour notre société. Nous avons encore quelques invitations à votre disposition pour le Salon du Contemporain, Browning Now, au Carreau du Temple, le 30 mars, de 10h à 13h, ou le vernissage de 18h à 21h. Chaque invitation est pour deux personnes. Et enfin, pour le Salon d'Art Moderne et Contemporain au Grand Palais, Art Paris Art Fair, du 31 mars au 3 avril. Voilà, Kathleen a les invitations à votre disposition. Et encore, merci mille fois, vous nous avez passionnés, comme vous êtes passionnés vous-même.
Non, je suis Victoria. Voilà, n'hésitez pas, à la sortie, vous aurez des souvenirs de prolongement. Et si vous voulez voir une laque chinoise du XVIIe siècle, ben nous avons apporté cette boîte. Hein. Vous verrez aussi le dragon, qui est le symbole de l'empereur. Et là, c'est une ronde de dragon autour de la perle. Autour de la rouge. Il doit y avoir là 8 couches de laque. 18 sur les côtés. L'intérieur.
Très sobre.
Ah oui. Il n'y a pas de trace de bouteille dans celui-là.
Ça, c'est Je vais passer votre voix. On n'en a pas parlé. Le lac, c'est un petit peu comme le yaourt. C'est velouté, c'est doux. Et ce sont des nuages qui parsèment l'univers des dragons. Et ils dansent autour du dragon, ils dansent autour de la perle. Voilà, ça c'est un des objets qu'on va vendre prochainement, c'est pour ça qu'on va en profiter. Et derrière, et tout autour, d'un motif du 4 feux. Et ça, c'est une production chinoise pour les Chinois. C'est pas une production pour l'exportation.
On a presque l'impression que c'est un bois sculpté.
Vous voyez, même il y a des thèmes universels dans les arts décoratifs. C'est la frise que vous avez ça. Vous avez ça au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce. On appelle ça une frise à la grecque. Et les Chinois ont la même chose. Il y a un langage universel dans la culture. Pas simplement dans le travail, le raffinement, mais aussi dans certains thèmes ornementaux. Et on le voit là. Et puis après, chaque civilisation, chaque pays, par sa propre culture, développe. Mais néanmoins, il y a des points communs. Et ça, par ça, c'est extrêmement curieux. C'est extrêmement... Comme la fameuse Fatiska,
oui.
La croix japonaise, qui a été pris comme emblème par les nazis. Hein,
dans le... L'envers.
Elle était un peu différente, pas dans le même sens.
Voilà, si vous voulez vivre l'enchère du coffre, elle a duré un quart d'heure, avec tous les musées qu'il y a, vous faites rouillac.com, hein, notre site internet, vous tapez là-haut Mazarin, et vous allez revivre la présentation. C'est vrai que c'est un grand moment. La politique japonaise, sachez que les vendeurs ont été extrêmement surpris quand nous avons fait nettoyer le coffre parce que le bar avait trouvé partout ces alcools, ils l'ont partout. Donc, c'est pas notre coffre, c'est pas notre bar, c'est pas le bar de papa. Et un garçon ici, j'avais enfermé un Noël là-dedans, puis t'avais des difficultés, puis t'avais fondu tout le monde. C'est vrai que le couvercle est fondu.
On aperçoit à l'horizontale.
Oui, à l'horizontale. Il est fondu. Et après, ils ont reconnu à la clé. Alors, très gentiment, Émeric leur dit, vous savez, on n'est pas tout à fait sûr, mais on pense qu'il aura appartenu à Mazarin.
Ah oui !
Un des maréchaux de Napoléon.
Ah non, d'accord.
Vous riez, monsieur, madame. Ils sont riés devant vous. On les snobait.
Ah ben non, bien sûr.
Alors, non, pas tout à fait. Vous connaissez La Rochelle, lui, Richelieu, le siège, tout ça. Oui. C'est à peu près comme ça. Ah, d'abord la Révolution. Donc après, vous voyez, même nous, commissaires-priseurs, on a un rôle d'accompagnement. Et après, quand il a fallu parler de prix, on leur a demandé, combien vous avez vendu le pavillon ? Oh, le notaire a dit qu'on arriverait bien à 180 000 euros.
Très bien. Alors, je vais écouter le coffre, on va commencer à 200 000.
C'est pas possible.
Après, on les a accompagnés. On les a accompagnés. Il n'en connaît pas. Il a fait la crise Samu après la vente.
Oui, oui.
Son frère a fait une crise cardiaque. C'était fou parce que la presse s'en est emparée avant et on sentait très bien que les enchères montaient. Un quart d'heure avant la vente, en fonction de qui était au téléphone, pour ça que regardez sur le site internet, vous allez comprendre, on savait qu'on avait dépassé les 3 millions. Donc on leur a dit. Et la sœur a dit. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Une fois que le marché est tombé, avec les frais, donc 7 300 000, hein, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait. La vendeuse, la fille, c'est un compère, il s'est rapproché. On veut reprocher quelque chose à Maître Rouillac. Maître Rouillac, il avait quand même mouillé sa chemise pendant des mois, on avait fait le maximum. Au Japon, on était aux États-Unis, les archives, on a dit, qu'est-ce qu'elle peut nous reprocher? On leur a donné 10 000 euros comme les confrères, il avait vu qu'il s'était du papier mâché, il partait à gauche, on voyait, c'était fini. De sa faute, on a payé 1 700. Voilà, non, mais quand vous payez 1 700, c'est en fonction de surface financière. Donc, bien y redonner un chèque, vous avez vu passer le plafond, vous avez payé 1 700.
Alors, quand ils ont vendu, vous avez payé
180 000 euros, vous avez payé 180 000, vous n'avez pas droit de succession, vous ne payez pas 1 700, vous avez payé 1 700. Mais ils ont été très chic parce que 6 mois après, on reçoit à la maison, Fondation de France, nous vous remercions de votre don, il sera utilisé pour telle rénovation. Regarde ça, ma femme est très généreuse, 1 000 000. T'as pas ici, ils te font tromper, t'as pas. On les a pas. Non, c'est un don qui était fait, donc reçu de l'envie. Vous êtes envoyé pour être transmis à la personne qui a fait le don et de rester 1 000 000. Alors je lui ai dit, ça vient d'où? Alors ça venait de Bayonne. Et l'autre de Saint-Cloud, le lieu d'habitation des frères et sœurs. Comme ça fait dur, ça va beaucoup à fond. J'aurais téléphoné, ils disent, ah oui, vous en avez tellement qu'on a voulu donner à la fondation.
Chic, c'est très bien.
Hein?
C'est très bien.
Chic.
Ce ne sont pas des gagnants du loto.
Ben, ils ont joué au loto, comme ils n'ont même pas eu besoin.
Mais ils sont dans les passages du loto. Je crois que
c'est tout. Les formulaires, on n'a pas besoin de jouer au loto.
C'est ça, c'est psychologique. La service psychologique derrière.
On a pas fait un appel au don. C'était déjà conservateur. Ils se sont entendus. Le président de la République était à Tokyo à la même époque, à la jour de la vente. Et parce que M. Pinault, la France était 2 000 euros, et M. Pinault dit, je mettrai la différence. Pourquoi? Parce que sa femme a offert une commode à la femme. Il n'avait rien élu. Il voulait son nom. C'est normal. À Versailles, vous avez bien vu. Avec les legs, c'est normal, vous remerciez les gens.
C'est normal,
c'est normal, ça coûte pas cher.
Et
le ministère de la Culture, le François Hollande, leur a dit en disant non, nous ne devons rien au privé. Je vais vous essayer de passer. Il y avait Artemisia, Pinault, et alors
il y a la moindre statue, ici qui a été rénovée.
On l'ouvre aussi maintenant.
Nous, vous ne retrouvez nulle part. Si, Karen Brown, 500, récemment, non. Ça les gêne, cet argent.
Oui, non, mais c'est.
Voilà. Comme vous disiez, vous avez tous les conservateurs avant vous. Et à cheval, on avait reçu tous les conservateurs français.
Ils avaient une
instruction. Ils sont en ruine. Il faut qu'on quitte la salle.
Alors, on est obligé de commencer de fermer.
Oui, j'imagine.
La sécurité nous oblige à fermer.
Non, juste une toute dernière
dans
question.
Dans des temps limités, hélas.
Il y a 3 ans, j'ai pris mon bonheur avec le musée du Palais National. Mais oui. Est-ce qu'ils en ont? Parce que dans leur réserve, comme on envoie que 5%, je...
Pas aussi exceptionnel.
C'est des boîtes. Non, parce que moi, j'ai été sidéré par l'histoire de
cet épique voyage, d'abord pour fuir les Japonais, ensuite pour fuir les communistes, avec le retour à Nankin en 1946, et puis le... C'est extraordinaire. Et donc, on... oui, non, c'est pas leur truc. Hein.
Voilà, c'est ça.
Ils ont des choses extraordinaires, mais c'est pas ça. Eh bien, maître, un grand, grand merci. Et moi, je suis...
Tenez, regardez ça. C'est une économie mignon.
Écoutez, merci. Je suis un grand amateur de vente, mais j'ai moi-même vendu quelques petites choses, j'ai acheté plus. Ah. Je suis toujours triste de voir de belles choses qui se vendent très mal. Alors, je ne parle pas seulement des armoires normandes, mais...
C'est pas mal que,
non, mais ça, c'est affreux de voir combien...
Acheter ce
qu'on aime. Vos confrères qui à chaque fois, disent... Bah, aller chez Ikea, c'est plus cher. C'est vrai. C'est bon. C'est vraiment un de mes plaisirs, et alors en plus...
Ah bon ça, alors... C'est très bien.
Eh bien. Et je suis heureux de voir qu'il n'y a pas que...
Ça, c'est à vous.
C'est à moi.
Vous avez enregistré ?
Oui, j'avais demandé à Emery si je pouvais enregistrer, ça ne lui posait pas de problème. C'était vraiment...